patiemment attendu depuis à peu près 20 minutes. Bonjour Charles Berling.
Bonjour.
Bienvenue dans ces matins du samedi. Vous êtes comédien, metteur en scène, directeur de la scène nationale Château-Vallon Liberté qui se partage en deux sites, en deux théâtres, celui d'Olioule et celui de Toulon, si je ne m'abuse. Est-ce que vous diriez, comme je l'ai dit tout à l'heure un peu pompeusement, mais c'est pas faux, homme de théâtre?
Oui, absolument, mais enfin, pas que de théâtre, de beaucoup de choses, de théâtre, de cinéma, de télévision, de radio.
Non, pas d'abord homme de théâtre, alors.
Si, bah,
c'est d'abord homme de théâtre avant le reste, ou bon, tout est en même temps?
C'est pas, des préoccupations. Non, c'est pas ça, pour moi, j'aime bien la pluralité, j'aime bien la multiplicité, donc et j'écris aussi, j'aime beaucoup écrire, donc pour moi, mais tout va
ensemble. En orchestre, alors.
Au fond, homme de parole, homme de langage.
Qu'est-ce qu'un homme de parole sans langage? Qu'est-ce qu'un homme de théâtre sans théâtre?
C'est un homme confiné, c'est-à-dire, c'est un homme qui, enfin, je pense qu'à ce moment-là, on prépare de se réouvrir quand on s'est fermé. Mais en même temps, je dirais que c'est pas une période très créative, mais c'est une période qui permet une forme de gestation, je pense. En tout cas, moi, ça m'a posé beaucoup de questions sur les mouvements aujourd'hui, sur la rapidité, sur l'hyperactivité, parce que j'en suis un spécialiste, et donc sur les travers que ça suppose, sur l'extrême mobilité, sur la rapidité en toute chose, et donc pour moi, j'ai eu la chance en plus d'être confiné au bord de la mer, donc
ça se voit. Hein,
j'étais comme, je pensais beaucoup à Beckett. Je prenais des jumelles, je regardais la mer vide, ce qui était très beau d'ailleurs. Des dauphins sont revenus et j'attendais rien. C'est-à-dire, je regardais la mer vide et je plaisantais comme Beckett l'aurait fait. J'imagine, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai joué Clove dans Fin de partie, oui, avec ses lunettes, il n'arrête pas de regarder par la fenêtre et puis l'autre lui dit alors, rien. Donc j'aime beaucoup la mer propose ce vide, cet espace, ce mystère.
Tout s'est arrêté pour l'acteur que vous êtes, Charles Berling, mais pas vraiment pour le directeur de théâtre. Il a fallu régler un certain nombre de choses quand même.
C'est très juste ce que vous dites et c'est important, c'est-à-dire comme acteur, comme artiste, tout s'est arrêté, vraiment tout s'est arrêté, et ce qui me fait mesurer le sort de tous mes collègues, de tous mes confrères, et en même temps comme directeur de théâtre, j'avais beaucoup de travail parce que justement j'avais, disons, le devoir de diriger cette institution culturelle et de faire en sorte qu'elle soutienne tous ces artistes, tous ces intermittents, ces techniciens, tous ces gens, et ils sont nombreux qui dépendent de ces institutions. C'est assez simple d'ailleurs de comprendre que si l'institution peut survivre, si sa marge artistique, comme on dit, c'est-à-dire en dehors de son fonctionnement, diminue, ce sont tous ces artistes c'est-à-dire toute la création qui va disparaître, ou en tout cas qui va en souffrir énormément. Et il fallait absolument ne pas garder que les façades, mais au contraire travailler à ce que cette dynamique ne se rompe pas.
Comment on fait?
Parce que, comment on fait? D'abord, on respecte les engagements qu'on a pris, même s'ils ne sont pas tous signés. On fait en sorte de reporter plutôt que d'annuler. Et si on annule, on fait en sorte de payer les prix de cession et de soutenir les compagnies. Ensuite, nous, dès le 11 mai, on avait travaillé à ce que le théâtre rouvre et ouvre ses portes pour des résidences d'artistes, puisque aux Libertés, comme à Château-Vallon, on a une tradition, enfin, on a les moyens, on a des locaux qui permettent des résidences d'artistes, Pommerat, Chérault, il y a beaucoup de grands artistes qui sont passés par là et ce sont des lieux magiques qui permettent aux artistes de travailler, d'avoir le temps de travailler, d'avoir des plateaux et tout. Donc on a ouvert ces lieux. C'était important de montrer. J'ai moi-même pu parce que je devais jouer en juin La solitude des champs de coton avec Matagabin de Bernard-Marie Coltès. Je faisais une nouvelle mise en scène, disons, c'est une pièce obsédante et on a envie toujours de l'épurer. Bon, donc j'avais prévu des répétitions, j'ai fait ces répétitions, même si ça ne débouchait pas sur des représentations. Mais je sais qu'on va reprendre le spectacle après en tournée en décembre, puis après, au théâtre 14 où on doit reprendre ça, on l'a reporté d'un an. Mais ça me permettait de retrouver un plateau. Et d'ailleurs, on a eu quelques personnes masquées, n'est-ce pas, qui sont venues parce qu'on a convié les amis après pour une sorte de sortie de résidence. Et c'était très... En fait, c'était très pas surprenant, mais au fond, les gens sont arrivés masqués, se sont assis dans la salle, finalement ont eu envie, on le sentait, de se regrouper. Bon, parce que... et puis, l'œuvre commence, le spectacle commence... Et au bout de deux minutes, la question du masque est oubliée. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'un accessoire. Elle n'est qu'une... Bon, c'est pas ça le plus important. Et c'est ce que j'ai mesuré.
Vous étiez mardi soir à la cérémonie des Molières, Charles Berling, et vous y avez lancé un appel, ou en tous les cas, vous avez fait passer un petit message pour la réouverture des salles, en insistant sur un mot. Vous avez parlé de responsabilité de chacun. Et vous vous adressiez, on l'a bien compris, j'étais en tous les cas de l'autre côté du poste de télévision à regarder. On a compris que vous vous adressiez notamment au ministre de la Culture qui était dans la salle. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de responsabilisation des directeurs de salle que vous êtes, en l'occurrence ?
Oui, je pense que, pas seulement pour la culture, je pense qu'en général, dans cette crise que nous avons passée, on déresponsabilise les citoyens et les choses sont amenées de telle façon à ce qu'on, ouais, on vous traite un peu, enfin, c'est de l'infantilisation pour moi. Donc, j'estime que, comme pour Vigipirate, comme pour beaucoup d'autres sujets, quand on reçoit du public, quand on est directeur d'une institution culturelle, que ce soit pour les équipes, les artistes qui viennent, ou même, évidemment, le public, eh bien, on prend des dispositions responsables. Vous voyez, quand on dit les petits musées, pas les grands, enfin, qu'on commence à définir des normes, je trouve ça assez dogmatique et au fond assez maladroit de la part des pouvoirs publics parce qu'ils devraient plus compter sur la responsabilité des gens sur le terrain comme je suis, comme nous sommes. C'est important, c'est très important de ne pas s'ériger de façon dogmatique comme ça. On fait trop de règles un peu absurdes. C'était très kafkaïen pour moi. Et là, comme je vous disais, quand on a fait venir du public, on est responsable. Moi-même, on cherche à comprendre comment ça marche. Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette crise, dans ce virus, dans cette maladie. Et c'est comme quand le sida est arrivé dans les années 80. Ben, à un moment donné, on s'est mis à penser au danger que ça représentait, mais nos vies sont concernées. Je ne laisse à personne le soin de me dire ce que je dois faire pour ma propre vie, y compris pour sa destruction si j'estime que c'est nécessaire. Là, je parle en tant que personne. Après, en tant que directeur, ben oui, je suis comptable, enfin, je suis responsable et je traite mon public, c'est pas mon public, mais je traite les gens avec le respect qu'il est normal d'avoir.
On entendait votre désir de remonter sur scène, Charles Berling, et de refaire du théâtre. Vous allez le faire pas plus tard que ce soir dans le cadre du festival Estival Camus, dont c'est la première édition. Vous allez lire les extraits du dernier texte de Camus, de son texte posthume, Le Premier Homme. Vous allez le lire à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris. Ce texte a été exhumé par sa fille, Catherine Camus, en 1994. Écoutez cet archivina. On est au Journal de France 2 le 6 avril 1994. Catherine Camus parle du Premier Homme.
C'est un document autobiographique, donc sur son enfance, sur sa mère, sur son instituteur. En tout cas, on comprend peut-être mieux des phrases comme qu'on lui a tant reproché d'avoir choisi s'il avait à choisir entre sa mère et la justice, il choisirait sa mère. On voit dans ce livre qui était sa mère, donc effectivement, si la justice n'est pas pour les gens comme ma grand-mère. La justice est un mot qui n'a pas de sens. On peut mieux comprendre aussi pourquoi il avait tant à cœur de parler pour ceux qui n'ont pas la parole, pour les gens qui sont opprimés, pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer.
Charles Berling, Le Premier Homme, c'est un texte que vous aimez particulièrement ?
Elle a raison, Catherine Camus. C'est un texte qui éclaire de façon extrêmement profonde et extrêmement forte la nature même de tous les textes de Camus. Quand j'ai commencé à lire Camus, j'avais 14-15 ans. Lui en tête, je pense, mais ça fait partie de ces auteurs qui vous sauvent la vie. C'est-à-dire qui vous sauvent qui vous réconcilie avec le savoir, qui font que le savoir et l'émotion, la puissance de l'émotion d'exister, la recherche de l'existence, eh bien se réconcilie. C'est-à-dire à l'école, moi j'ai et en plus bon, c'est vrai que dans le premier homme, il parle justement de Monsieur Germain, enfin de
Monsieur Bernard, dans le livre, texte,
mais il en parle,
son instituteur.
Oui, et il en parle. C'est quand j'ai lu le premier homme, j'ai compris la fascination, l'amour que je pouvais porter à un auteur comme lui. C'est-à-dire qu'il me parlait immédiatement à quelque chose de il me parlait à un endroit de moi qui était plus qu'intime. C'est-à-dire il m'a ouvert les yeux à la littérature. Les yeux et le cœur.
L'un des extraits que vous allez lire ce soir, c'est précisément ce moment où Monsieur Bernard, Monsieur Germain, dans la vraie vie, propose au jeune Albert Camus, qui est au jeune Albert, une bourse pour entrer au collège et au lycée. Vous accepteriez de nous en lire un petit bout, puisque tout le monde ne pourra pas être ce soir à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville, Charles Berling?
Mais il paraît que ça sera retransmis à la radio.
Il paraît, oui.
C'est la radio, c'est la magie de la radio, c'est de pouvoir faire entendre des textes même
en
si on n'est pas présent.
En avant-première sur France Culture.
Alors, voilà, dit Monsieur Bernard quand la classe fut vide. Vous êtes mes meilleurs élèves. J'ai décidé de vous présenter à la bourse des lycées et collèges. Si vous réussissez, vous aurez une bourse et vous pourrez faire toutes vos études au lycée jusqu'au baccalauréat. L'école primaire est la meilleure des écoles, mais elle ne vous mènera à rien. Le lycée vous ouvre toutes les portes, et j'aime mieux que ce soit des garçons pauvres comme vous qui entrent par ces portes. Mais pour ça, j'ai besoin de l'autorisation de vos parents. Trottez. Ils filèrent, interdits, et sans même se consulter, se séparèrent. Jacques trouva sa grand-mère seule à la maison qui triait des lentilles sur la toile cirée de la table dans la salle à manger. Il hésitait et puis décida d'attendre l'arrivée de sa mère. Elle arriva, visiblement fatiguée, mit un tablier de cuisine et vint aider la grand-mère à trier les lentilles. Jacques proposa son aide et on lui donna l'assiette de grosse porcelaine blanche sur laquelle il était plus facile de trier la pierre de la bonne lentille. Le nez dans l'assiette, il annonça la nouvelle. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» dit la grand-mère. « À quel âge on passe le bachot ?»« Dans 6 ans, » dit Jacques. La grand-mère repoussa son assiette. « Tu entends ?» dit-elle à Catherine Cormery. Elle n'avait pas entendu. Jacques, lentement, lui répéta la nouvelle. « Ah, » dit-elle, « c'est parce que tu es intelligent. » Intelligent ou pas, on devait le mettre en apprentissage l'an prochain. Tu sais bien que nous n'avons pas d'argent. Il rapportera sa semaine. C'est vrai, dit Catherine. Le jour et la chaleur commençaient de se détendre au dehors. À cette heure où les ateliers fonctionnaient à plein, le quartier était vide et silencieux. Jacques regardait la rue. Il ne savait pas ce qu'il voulait, sinon qu'il voulait obéir à Monsieur Bernard. Mais à 9 ans, il ne pouvait ni ne savait désobéir à sa grand-mère. Elle hésitait pourtant, visiblement. « Qu'est-ce que tu ferais après ?»« Je ne sais pas. Peut-être instituteur, comme Monsieur Bernard. »« Oui, dans 6 ans. » Elle triait ses lentilles plus lentement. « Ah, dit-elle, et puis non. Nous sommes trop pauvres. Tu diras à Monsieur Bernard que nous ne pouvons pas. »
Merci Charles Berling. Donc la suite ce soir au théâtre de la Ville à Paris, Espace Cardin, et bien sûr sur France Culture, ça sera de 20h à 21h. C'est la première fois que vous allez lire du Camus sur scène à voix haute? Non.
Non, pas du tout. Non, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu.
Sur scène à voix haute?
Oui.
Devant un public?
Oui.
Et c'est un symbole particulier de recommencer à monter sur scène pour lire du Camus ?
Ah, tout à fait. C'est une figure centrale, comme je vous l'ai dit, que ce soit pour le théâtre. J'ai monté Caligula de Camus. J'ai une salle aux Libertés qui s'appelle Albert Camus. C'est pas pour rien.
Et qui s'appelle Liberté, oui. Le théâtre lui-même. Il est 7h30 sur France Culture. On vous retrouve d'ici quelques minutes. On va laisser passer le flash d'information. 7h30.
Année 2020, 16 mars. Nous sommes contraints de fermer le théâtre. Brutalement, la saison s'achève. Et les joies de ce début de printemps font place à l'immense tristesse d'être séparés de vous, des artistes et de nos équipes. Après ces mois terribles, c'est avec prudence et humilité que nous revenons à la vie, saluant amicalement et respectueusement celles et ceux qui ont été frappés par ce virus mortifère, remerciant les femmes et les hommes.
Charles Berling est notre invité ce matin, comédien, metteur en scène, directeur de la scène nationale Liberté, Château-Vallon. Ce qu'on entend là, Charles Berling, c'est l'extrait d'un petit film. Il faut le voir, le film, comme vous le disiez en entendant ce son. On vous voit en fait à vélo, pieds nus sur votre vélo, mais en costume, déambulant dans les rues de la ville, au milieu des pins, dans votre théâtre et dans la mer. Puisque tout ça se termine par un plongeon dans la mer. Qu'est-ce que c'est cette petite vidéo? Vous l'avez montrée cette semaine? Sur les réseaux sociaux notamment.
Ben oui, comme beaucoup de théâtres, disons, on peut pas faire des présentations de saison normales, donc on a imaginé de faire un film, puisque déjà depuis que moi j'ai commencé le Liberté en 2010,
donc il y a 10 ans.
Oui, et on a créé tout de suite la quatrième scène à l'époque. Maintenant c'est la septième scène, puisque maintenant je dirige deux théâtres, mais cette septième scène est un espace virtuel, donc c'est avec ça qu'on a, avec cet outil numérique, disons, qu'on a déjà télétravaillé, que vous savez qu'on a tout.
Oui, d'ailleurs, vous avez raconté que l'expérience avait été monstrueuse pour vous de télétravailler.
Enfin, pas monstrueuse, enfin, bon. Non, mais pour moi, la septième scène est complémentaire, mais ne remplace pas les plateaux et l'art vivant. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire ce film. Et là, c'est l'édito où, comme je vous le disais, le confinement, moi, m'a fait réflexion sur le temps et sur l'utilisation qu'on en fait, mais aussi sur l'utilisation, oui, précisément, malheureusement, de la nature autour de nous et de la considération qu'on en a. Donc, de prendre un vélo, de descendre cette colline magnifique au-dessus d'Olioul, et puis de traverser la ville, et ensuite d'aller dire bonjour à la mer et aux océans, bah, ça me paraissait important parce que c'est important pour moi de considérer qu'il y a une diversité culturelle, mais aussi une diversité naturelle à défendre et à restaurer. Camus aurait pris ces thèmes dans cette vision, c'est-à-dire en cherchant à la préserver, mais pour la développer, pour comprendre que c'est un bien qui nous est donné et qu'il est important de le considérer.
Et de l'honorer. Donc.
Et de l'honorer, tout à fait. Et c'est le contraire de la tristesse, de la mélancolie. C'est de la joie pure. Donc, c'est vrai qu'un vélo, aujourd'hui, c'est un grand symbole du rapport que nous devons avoir, de l'humilité que nous devons retrouver face à la nature.
Joie, dites-vous, c'est justement pour vous projeter dans un avenir joyeux que vous avez annoncé cette semaine, la saison 2020-2021, avec beaucoup de ce que vous avez appelé nouveaux horizons. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, à commencer par un festival à Château-Vallon cet été.
Oui, c'est-à-dire que traditionnellement à Château-Vallon, il y a en juillet une sorte de festival d'été où on fait une programmation pour un amphithéâtre de 1200 places. Donc on a dû renoncer à ces manifestations dans l'amphithéâtre, qui l'amphithéâtre de Château-Vallon, c'est son histoire, n'est-ce pas? C'est son cœur. Mais on a créé des crépuscules, c'est-à-dire des petites formes qui permettent aux gens d'être dans le parc, dans les pins, et puis d'écouter de la musique, de voir de la danse. Et hier, on a commencé hier avec Franck Micheletti, Romain Berthet, des chorégraphes et danseurs d'ailleurs qui sont issus de la métropole toulonnaise, qui, bien sûr, qui travaillent bien ailleurs, mais, ça nous permet, ces crépuscules, eh bien, de faire monter des spectateurs pour la première fois depuis 4 mois.
Quoi d'autre à nous annoncer? 73 spectacles sur les deux sites que sont Château Vallon et Le Liberté. Ça veut dire que vous avez aussi reporté des spectacles, vous le disiez tout à l'heure, plutôt que de les annuler.
Comment on a pensé les choses? Oui, on a reporté certains spectacles, mais disons qu'on a, on avait déjà travaillé, on était en train de terminer la programmation de la saison proprement dite. Mais je voudrais dire que bien sûr, il y a la programmation et elle est très belle. J'invite tout le monde à regarder sur notre site Liberté Château Vallon, ou Château Vallon Liberté, que c'est comme on voudra, c'est une scène nationale, de regarder la programmation. Mais pour moi, ce qui est important, c'est au-delà de la programmation, c'est tout ce qu'on fait dans ces institutions culturelles, c'est-à-dire bien sûr les actions culturelles, et on développe des thématiques. La première, ça sera une thématique qui s'appelle Passion Bleue, parce que ça nous permet de faire venir aussi des plasticiens, de faire venir des scientifiques, des artistes, tous ces gens se rencontrent, de faire venir des enfants, des gens âgés, pour moi, ces lieux-là ont un intérêt, ont un sens quand ils permettent des passerelles entre toutes les populations, entre tous les savoirs. Parce que je crois qu'on souffre beaucoup de spécialisation. Et moi qui ai fait beaucoup de théâtre depuis que j'ai 14 ans dans ma vie, j'ai commencé à Toulon au lycée Dumont d'Urville, j'ai toujours pensé qu'il fallait arrêter de voir le théâtre comme quelque chose pour des spécialistes, qu'il fallait faire éclater cette chose-là. Et je suis passionnément amoureux de Edgar Morin parce qu'il raconte ça très bien. Il raconte comment il faut décloisonner, comment il faut faire en sorte de devenir des généralistes. Et pour moi, ces institutions culturelles, elles doivent être comme ça. Elles doivent faire très attention à ça. Et ces thématiques, la première, ça sera Passion Bleue. Je l'ai dit tout à l'heure parce que pour moi, la mer, les océans, c'est un univers encore très inconnu et qu'on doit découvrir, qu'on doit faire redécouvrir aux citoyens, aux citadins, parce que à Toulon, par exemple, c'est une ville où beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'ils ont à côté d'eux et qui est un bien extraordinaire, n'est-ce pas? Nous sommes la deuxième puissance maritime, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir avec la mer et les océans. Mais si on se met à y penser de façon au fond plus raisonnable, parce que au fond on est très déraisonnable avec la mer, on la pille, on la traite vraiment très mal, avec beaucoup de mépris et beaucoup de suprémacisme, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est au-dessus de au-dessus d'elle. Non. Et écoutez la chanson de Renaud qui est très belle sur, il a fait de la voile, Renaud, et il avait très, j'aime beaucoup, c'est pas le marin qui prend la mer, c'est la mer qui prend le marin. Eh bien, c'est pareil avec l'homme. C'est-à-dire que c'est pas nous qui disposons de la mer, c'est la mer qui dispose de nous, et elle le montrera dans l'histoire.
Vous auriez presque pu prendre cette chanson pour terminer cet entretien, oui, Charles Berling, au fond.
Oui, mais j'aime aussi profondément Léo Ferré, mais La mémoire et la mer est une chanson qui pour moi est d'une poésie. J'aime beaucoup la chanson de Renaud, mais La mémoire et la mer, c'est, enfin, je l'ai d'ailleurs chantée parce que j'aime chanter de temps en temps, mais c'est pour moi une chanson qui allie à la fois un regard fort sur la mer et en même temps une poésie totalement infinie.
Avant d'entendre un extrait de La mémoire et la mer de Léo Ferré que vous avez choisi, Charles Berling, comme on parle de Camus tout le week-end sur France Culture, je voudrais vous proposer d'écouter sa voix, Camus, voilà. Puis vous avez parlé de la joie également, Camus et sa définition du bonheur.
Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais, ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux, car aussitôt vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. Où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable.
Vous aviez envie de dire quelque chose, oui, après cette archive de Camus.
Quand j'entends Camus parler d'être heureux, du bonheur, je dis toujours à l'équipe avec qui je travaille, nous avons le devoir d'être heureux. C'est-à-dire, on parle souvent, par exemple, du chômage ou des chiffres du travail, mais on a oublié une chose fondamentale, c'est que il faut donner du travail aux gens heureux, du travail heureux aux gens, et non pas simplement des chiffres.
Merci beaucoup, Charles Berling. Merci d'être venu si tôt pour nous dans ce studio des matins du samedi de France Culture. On vous retrouvera donc en direct à 20h. Vous serez, vous, sur la scène de l'Espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris, mais vous serez sur tout le territoire national et bien ailleurs grâce aux ondes de France Culture, donc en direct à 20h, pour nous lire donc des extraits du premier homme d'Albert Camus. Avant vous, ce sera Abdelmalik qui lira L'Envers et l'Endroit. Et puis tout le week-end se poursuit sur France Culture, dès 9h d'ailleurs tout à l'heure. Alain Finkielkraut dans Réplique aura pour invité Raphaël Enthoven et ils liront ensemble, oui, le commentaire, ça sera sûrement magnifique, du premier homme précisément, de ce que vous lirez ce soir notamment. Et puis L'Esprit public demain d'Émilie Aubry, ça sera une émission spéciale Albert Camus à 11h et puis bien d'autres richesses sur France Culture. Un grand merci donc à vous d'être venu ce matin.
Sourire.
Il est 7h46 sur France Culture et on enchaîne avec La Fabrique médiatique.